diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission du samedi, une émission où nous vous proposons comme chaque semaine trois rubriques. On commence tout de suite par le rendez-vous culturel de la semaine. Dans Culture sans frontières aujourd'hui, Magdalena Rosinkova reçoit la romancière française installée à New York, Catherine Cusset. Elle est auteure d'une dizaine de romans, dont Un brillant avenir, publié en 2008 chez Gallimard et primé au Goncourt des lycéens. Fin mars, le roman est sorti en tchèque et Catherine Cusset est venue le présenter au public de Prague et de Brno. Magdalena Rosinkova l'a rencontrée ainsi qu'une lectrice dont le destin ressemble drôlement à celui de l'héroïne d'Un brillant avenir.
Culture sans frontières.
Elena est une scientifique roumaine née dans les années 1930. Petite fille, elle fuit avec ses parents adoptifs la Bessarabie occupée par l'armée soviétique. La famille s'installe à Bucarest, où Elena rencontre en 1958 son futur mari, Jacob, d'origine juive. Lorsqu'ils ont 40 ans et un fils unique, ils quittent la Roumanie de Ceausescu pour s'installer aux États-Unis en passant par Israël. Le rêve américain d'Elena se réalise, elle peut offrir un brillant avenir à son fils Alexandru. Un jour, sa vie est bouleversée par l'arrivée dans la famille de la fiancée française d'Alexandru. La relation délicate entre la belle-mère et la belle-fille, qui symbolise ici le conflit culturel entre l'Est et l'Ouest, ainsi que la difficulté de l'émigration, voilà deux sujets que Catherine Cusset aborde dans son remarquable roman « Un brillant avenir », par ailleurs inspiré du destin de sa propre belle-mère roumaine. En parlant de la genèse du roman, nous avons d'abord évoqué avec Catherine Cusset la République tchèque, car au milieu des années 90, l'écrivaine a passé 2 ans et demi à Prague et l'a rejoint son mari, venu créer ici un journal d'affaires en anglais, Catherine Cusset.
C'est une période dont je suis très nostalgique. Bon, d'abord, il faut se rendre compte que c'était avant l'Internet. Enfin, il y avait l'Internet, mais à l'époque, les connexions étaient très très mauvaises, donc ça marchait jamais. Et puis, en 95, il était très difficile de louer un appartement avec le téléphone. Donc au début, nous n'avions pas le téléphone. Donc une absence, pas de portable à l'époque non plus. Mm-hmm. Donc quelque chose dont on n'a pas d'idée aujourd'hui, une absence de communication, une absence de connexion avec le monde, qui, je crois, n'est plus possible, presque nulle part. Et donc j'ai souvenir d'une très grande solitude à Prague, mais d'une solitude... C'est toujours un peu triste, la solitude, mais c'est aussi très riche. On est dans une vie intérieure, beaucoup plus forte. Et j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup écrit, et donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé Prague, qui reste en moi, et je ne suis pas retournée depuis 10 ans. Et ce retour-là, pour la sortie de Un brillant avenir en tchèque, me donne une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Je me rends compte que vraiment Prague fait partie de moi, de ma vie. Enfin, c'est une ville dont j'ai la géographie en tête, dont j'ai l'atmosphère en moi. Enfin, je porte Prague en fait. Jusque-là, il y avait les États-Unis, la France, c'était assez compliqué, New York, Paris. Il y avait assez de lieux, mais en fait, je m'aperçois qu'il y a un lieu en plus et que je reviendrai à Prague.
Est-ce que ce jour s'est reflété peut-être indirectement ou directement, je ne sais pas, dans vos romans?
Pour l'instant, pas vraiment directement encore. Il faut vraiment un lieu, ne sort pas nécessairement tout de suite dans un livre. Il faut vraiment laisser le temps mûrir les choses. J'ai mis longtemps à écrire sur l'Amérique. J'y vis depuis presque 25 ans et mes romans américains, entre guillemets, sont Le problème avec Jeanne et Un brillant avenir. C'est mes deux premiers livres, mes deux qui se passent en Amérique, qui sont tous les deux en tchèque d'ailleurs. Et donc Prague dans mes livres, bon, il y a 3 pages dans Le problème avec Jeanne, d'un petit voyage très romantique, des amoureux à Prague. Il y a quelques scènes dans un autre livre, dans Confession d'une radine, mais il n'y a pas encore, il n'y a pas de livres qui viennent comme ça directement de mon expérience pragoise. Par contre, quand j'ai écrit Un brillant avenir, qui est inspiré par la vie de ma belle-mère roumaine, donc et de mon mari, donc qui vient de Roumanie. Donc toute cette expérience de l'Europe de l'Est, d'une jeunesse dans un pays où on n'a pas de liberté, et puis ce désir de partir, cette émigration très difficile. Le fait d'avoir vécu à Prague, peut-être au milieu des années 90, m'a peut-être donné un sens, m'a donné une idée de qu'est-ce que ça avait été, le communisme. J'étais d'ailleurs venue pour la première fois à Prague en juillet 86, quand j'avais 23 ans. Et donc j'ai vu une autre Prague, hein. C'était pas la même Prague à l'époque. Dans ce silence, je sais pas, c'était tellement calme, tellement isolé, il y avait vraiment quelque chose comme sous un couvercle presque, comme ça. Donc voilà, donc j'avais quand même un sentiment d'Europe de l'Est. Donc il y a peut-être ce sentiment-là, voilà, je l'avais en moi quand j'ai écrit Un brillant avenir.
Et vous voyez des parallèles entre la République tchèque et la Roumanie ?
Des parallèles, il y en a certainement. D'ailleurs, les journalistes tchèques avec qui j'ai parlé maintenant m'ont dit, mais il y a des scènes typiques dont vous parlez, par exemple... Quand Elena, donc mon personnage roumain, elle est scientifique, elle est ingénieure nucléaire, et elle est invitée en France pour un colloque en 1968, donc par le gouvernement roumain, qui l'envoie là-bas, et c'est son premier voyage à l'Ouest, elle n'a pas du tout d'argent, évidemment, le gouvernement roumain donne à ses scientifiques 100 francs pour la semaine, c'est presque rien. Et elle rêve d'acheter à son fils, qui a 6 ans, Alexandrou, une paire de chaussures, une paire de petites bottines d'hiver magnifiques, 40 francs, donc presque la moitié de l'argent qu'elle a pour une semaine. Donc vous imaginez, elle mange rien pendant une semaine pour pouvoir avoir cet argent pour acheter des chaussures. Et donc la journaliste à qui je parlais hier m'a dit, mais ça c'est typique de la République tchèque. Donc je pense qu'en effet, il y a un certain nombre de choses du rapport entre l'Est et l'Ouest qu'on va retrouver dans tous les pays de l'Est. Mais quand même, la Roumanie, c'est un pays roman, latin. Et donc, quand j'ai écrit le roman, j'aurais pu transposer, j'aurais pu décider, pour que ce soit plus loin de ma famille, de le transposer en Tchéquie, de décider que c'était une famille tchèque qui émigrait aux États-Unis. Ça aurait été plus facile pour moi, pour les lieux, parce que je connaissais mieux la Tchéquie que je connaissais la Roumanie. Je ne l'ai pas fait parce que je crois que le rapport entre la Roumanie et la France est un rapport très particulier, à la fois de grande admiration, mais qui explique aussi, chez mon personnage Elena, la peur de la France. La peur d'une certaine supériorité, la peur que son fils parte vivre en France parce qu'il épouse une Française, la peur de le perdre. Et je crois que ça va être plus vrai chez quelqu'un de roumain à cause de la proximité que chez quelqu'un de tchèque, et c'était essentiel pour mon livre.
Et à quel point ce livre est donc inspiré de l'histoire de votre belle-mère ? Est-ce qu'elle a lu le roman ? Quelle était sa réaction ?
Le livre au départ, je ne l'ai pas écrit à cause de l'histoire de ma belle-mère. Ce qui m'intéresse dans l'écriture... c'est la difficulté du rapport à l'autre, du rapport à autrui, le conflit, le malentendu, la souffrance, tout ce qui est l'incompréhension, toute la haine, sont des sentiments très forts. Vous savez, quelque part, moi j'ai qu'une envie, c'est d'être aimée, j'ai envie qu'on m'aime. Et pourtant, dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde, il y a tellement de malentendus et tellement de relations difficiles. Et toujours je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire ça ? Pourquoi est-ce que les choses peuvent pas être claires ?
Justement, excusez-moi de vous interrompre, dans le mode de communication de cette famille roumaine, il y a beaucoup, on peut se reconnaître, les Tchèques, je pense, peuvent facilement se reconnaître. Pensez-vous que ce mode de communication est quelque chose de typique pour les gens de l'ancien bloc de l'Est?
Oui, tout à fait. Là, vous touchez d'ailleurs un point essentiel dans la différence entre mes personnages, donc je vais en parler. C'est peut-être même l'origine du livre. Oui, je pense que dans l'Europe de l'Est régnait la loi du silence, tout simplement. On vit dans un pays totalitaire, on fait drôlement attention. On ne veut pas se retrouver en prison. Il y a une conséquence dangereuse de la parole. La parole a du poids, elle a un poids qui peut conduire à la mort. Maintenant, vous êtes français, la parole, elle ne va pas vous conduire à la mort. Vous pouvez tout dire, ce n'est pas dangereux. Et je crois que c'est la différence essentielle entre mes deux personnages, et c'est ça qui a inspiré le roman. C'est vraiment ce qui a inspiré mon roman au départ, c'est ma difficulté, enfin mon conflit avec ma belle-mère. C'est-à-dire ce que moi, française, qui ai épousé un Roumain, je me suis heurtée tout de suite à l'hostilité de cette femme qui ne voulait pas que j'épouse son fils. Ça m'a paru fou. Son fils et moi, nous étions amoureux l'un de l'autre. J'étais une jeune fille très bien, je vous jure. J'avais fait des très bonnes études, je venais d'une bonne famille, j'allais vivre avec lui aux États-Unis. Enfin, il y avait mais littéralement aucun problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle avait cette femme ? Pourquoi elle m'aimait pas ? Quel était le problème ? Parce que j'étais française ? Mais pourquoi ? Et je n'ai pas compris du tout. Et je ne l'ai pas compris pendant 20 ans. Et quand j'ai écrit le livre, je ne le comprenais pas encore. J'ai écrit le livre parce que cette hostilité, tout à coup, 20 ans après, est devenue un sujet de livre. Et que j'ai voulu écrire sur une histoire d'amour entre un homme et une femme dans laquelle il y avait un personnage hostile, celui de la mère, de la belle-mère. Et c'est quand j'ai écrit le livre et que j'ai commencé à m'intéresser au personnage de la belle-mère, à penser, tiens, mais avant d'être une belle-mère, elle a été un jour une femme mariée, elle a été une mère, elle a été une jeune fille, elle a été une petite fille en Roumanie. Et j'ai commencé à rentrer dans ce personnage, dans la tête de ce personnage. J'ai commencé à aller en Roumanie dans les années 40-50. Et j'ai commencé à comprendre qui était cette femme, d'où elle venait et pourquoi, plus tard, 30 ans après, elle ne pouvait pas aimer, elle ne pouvait pas accepter cette belle-fille française. Cette belle-fille comme ça qui peut tout dire, qui peut parler de tout, mais qui n'a évidemment pas les mêmes peurs qu'elle, qui n'a pas le même sens du danger, qui n'a pas la même expérience, qui n'a pas l'expérience de la perte.
Pour revenir à votre belle-mère, quelle était sa réaction à votre livre ?
Quand j'écrivais le livre et que je disais, les amis me disaient « Mais qu'est-ce que tu écris en ce moment ?» Et je répondais en riant « Bah, j'écris un livre sur ma belle-mère. » Et tout le monde me disait « Mais ça va pas, t'es folle, elle est vivante, mais t'es complètement dingue, c'est pas possible. » Donc c'était en riant, c'était une plaisanterie, mais c'était un sujet dangereux. Et d'ailleurs, mon mari n'en était pas du tout content. Voilà, donc je l'ai écrit en ayant très peur. Mais en même temps, le portrait est un beau portrait, hein, le portrait de cette femme, Elena, Hélène. Tous les journalistes, quand le livre a paru en France, l'ont appelée « Mère Courage ». Alors, quand elle l'a lu, elle a été très, très émue. Elle a pleuré, elle a trouvé que c'était très beau. Elle m'a dit qu'elle ne savait plus si elle était elle-même ou si elle était Elena. Elle était vraiment perdue, comme ça, entre les deux personnages, entre elle et ce personnage. Et en même temps, bien sûr, elle a été bouleversée, parce que si vous écrivez la vie de quelqu'un, même si vous inventez cette vie, mais qui retrouve tous les faits de sa vie, et puis cette Roumanie qu'elle avait quittée, et que je pense que j'ai réussi à restituer, à ressusciter sur le papier, oui, elle a été profondément bouleversée.
Et votre relation a changé ?
Voilà, c'est une question personnelle.
Dans une bibliothèque pragoise travaille une économiste moldave, Zina Ivanov. Tout comme la belle-mère de Catherine Cusset, en lisant Un brillant avenir en tchèque, elle ne savait plus si elle était elle-même ou si elle était Elena. Recommencer sa vie à zéro, dans un pays nouveau, dans une langue nouvelle, Zina Ivanov connaît. Voici son témoignage.
Je me suis complètement identifiée avec l'héroïne de ce livre. En le lisant, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait. Comme elle, j'ai émigré non pas aux États-Unis, mais en République tchèque. Comme elle, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés dans ce nouveau pays. Difficultés non pas matérielles, mais plutôt psychologiques, liées à l'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple. Tous les faits décrits dans le roman correspondent à la réalité. Je pense par exemple aux péripéties des Roumains de la Bessarabie, qui ont choisi de partir en Roumanie lorsque la Bessarabie a été rattachée à l'URSS. La famille, dans le roman, rejoint très difficilement Israël, puis les États-Unis, comme cela a été le cas de beaucoup de Juifs de Moldavie. Enfin, ce roman m'a touchée parce que j'ai aussi un fils unique. Si nous nous sommes installés avec mon mari en République tchèque, c'était aussi pour lui offrir un meilleur avenir.
Un brillant avenir de Catherine Cusset a paru en mars 2011 aux éditions Iota sous le titre Skvělá budoucnost. Catherine Cusset est en train de préparer un nouveau roman qui devrait sortir en 2012. Cette fois-ci, l'auteur nous emmènera en Inde.
Merci Magda pour cette rubrique très intéressante. La deuxième partie de ton interview avec Catherine Cusset sera diffusée très prochainement dans Culture sans frontières. Évidemment, tout de suite, on continue avec votre rubrique. La rubrique des auditeurs et des lecteurs de Radio Prague qui est présentée pour vous cette semaine par Václav Richter et Pierre Ménian.
Courrier des auditeurs. «
tous les 15 jours, nous vous présentons des extraits de vos lettres et de vos courriels parce que nous sommes convaincus que ces passages sont susceptibles d'intéresser l'ensemble des auditeurs de Radio Prague.
Voici donc ce que nous avons trouvé dans vos lettres au cours de ces derniers jours.
Tout d'abord, la lettre que nous avons reçue de la part de Monsieur Bernard Bonshomme de Bercha en France. « Je vous prie de m'indiquer, écrit-il, si Radio Prague émet en français sur onde moyenne, dans l'affirmative, je vous prie de bien vouloir me faire connaître la fréquence en mètres et en kilohertz. »
Malheureusement, depuis le 31 janvier dernier, déjà, Radio Prague n'émet pas sur onde courte. Elle n'émet pas non plus sur onde moyenne. En ce qui concerne la diffusion en streaming, vous pouvez capter nos émissions en direct sur Internet au moment de leur diffusion. Vous trouverez les heures de diffusion de nos émissions sur la grille de nos programmes. Les émissions en français sont mises en ligne plusieurs fois par jour à 0h30, à 3h30, 6h30, 9h30, 12h30, 15h30, 18h30 et à 21h30, heure d'Europe centrale.
Il y a des auditeurs de Radio Prague qui déplorent beaucoup de ne pas pouvoir capter nos émissions sur onde courte. Tel est le cas, entre autres, de notre auditeur Philippe Obre. « Chers amis, lisons-nous dans son courriel, vous n'êtes pas sans savoir que mon pays vit une crise sans précédent depuis 2002. En apprenant ce matin que les émissions en onde courte sont suspendues depuis le 31 janvier, j'avoue que l'usure de la guerre m'a trop éloigné de vous. Aujourd'hui, des pays comme le nôtre, où les auditeurs africains sont ainsi privés de vos émissions, j'avoue que des précautions n'ont pas été prises pour avoir des partenaires locaux en diffusion FM. Le net est un grand luxe pour nos pays. On ne peut pas se permettre de payer dans un cyber pour écouter la radio. J'avoue que ce n'est pas possible tellement les besoins sont vitaux et le net devient superflu. »
Bonjour, cher journaliste, nous écrit Dima Hakpo, professeur de mathématiques au lycée de Sanguera au Togo. C'est avec joie que je vous écris cette lettre pour vous dire que j'ai écouté votre radio pour la première fois et j'ai cherché à avoir votre mail pour vous écrire et vous laisser mon adresse. Moi, je suis un jeune Togolais de 30 ans, professeur de mathématiques. J'aime beaucoup correspondre par boîte postale et je voudrais bien communiquer avec vous pour avoir votre grille de programme, pour savoir comment fonctionne votre radio et pour connaître son histoire. J'aime aussi la correspondance. Donc, à travers de vous, je ferai beaucoup d'amis.
Si vous, nos auditeurs, voulez donc correspondre avec Monsieur Dima Hakpo, écrivez-nous et nous vous donnerons l'adresse que ce jeune professeur de mathématiques du Togo a mis à notre disposition. Monsieur Anthony Joubier de France nous a fait part d'un projet qu'il se prépare à réaliser. Je vous écris, lisons-nous dans son message, car j'envisage d'organiser prochainement des ateliers de découverte sur l'interculturalité dans les sociétés en République tchèque et en République slovaque. Le public concerné par ces ateliers est un groupe d'étudiants d'une école de commerce de Nantes. Ayant travaillé près de 9 ans en République tchèque et en Slovaquie, j'ai déjà plusieurs documents. Cependant, je recherche encore des documents afin d'enrichir ma présentation. Films, illustrations, publications, contacts, liens internet, expositions, affiches. Dans le cadre de sa formation, chaque étudiant est appelé à faire un stage professionnel ou un semestre d'études à l'étranger. Ainsi, cette présentation peut être l'occasion de créer des liens entre des futurs salariés et des entreprises tchèques ou slovaques. Je vous serai donc très reconnaissant de votre collaboration, dans la mesure du possible, afin de me communiquer des sources ou tout document que vous jugeriez utile dans le cadre de ce projet.
Nous estimons que déjà, les émissions de Radio Prague, sous leur forme écrite et sonore, peuvent servir le projet envisagé par M. Joubier. C'est dans nos émissions que vous pouvez trouver, M. Joubier, beaucoup d'informations dont vous pourrez profiter en réalisant votre projet.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui nous écoutent, qui nous lisent sur Internet et bien sûr tous ceux qui nous écrivent malgré la situation actuelle et malgré notre absence sur onde courte.
Merci de nous rester fidèles et à bientôt.
Et tout de suite, la suite du programme, c'est encore avec Václav Richter dans la pléiade d'excellents acteurs tchèques du XXe siècle. Une place importante appartient à Karel Heger, artiste qui a marqué par sa griffe le théâtre, mais aussi le cinéma tchèque. Václav Richter donc vous présente un recueil des souvenirs que cet artiste exceptionnel nous a laissés.
Thank you.
rencontre littéraire. Il savait créer autour de lui une atmosphère particulière qu'il n'est pas facile de décrire. Une atmosphère qui était à la fois pleine d'engagement intense, de bien-être et de calme. Avec lui, on se sentait en sécurité. Avec lui, le travail devait tout simplement réussir. C'est par ces paroles que la célèbre actrice Dana Medvedska a évoqué son collègue du Théâtre National de Prague, Karel Heger. Il est né en 1909 et à l'occasion du centenaire de la naissance de cet artiste, la maison d'édition XYZ a publié un recueil de ses souvenirs et réflexions intitulé « Le carnet d'un acteur ». Voici une reprise de l'émission que nous avons consacrée à ce livre en 2010. Karel Heger est le dernier né d'une famille de 13 enfants, dont le père était briquetier de la ville de Brno en Moravie. D'abord instituteur, il se sent irrésistiblement attiré par le théâtre, joue dans un théâtre de marionnettes, fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Après avoir étudié au conservatoire de Brno, il prend son premier engagement dans un théâtre de cette ville, et déjà en 1940, il entre au Théâtre National de Prague, où il créera plus d'une centaine de rôles. Grâce au cinéma et plus tard aussi à la télévision, Karel Heger deviendra l'un des acteurs tchèques les plus populaires de son temps.
Maminka mi už jako docela malému klukovi vyprávěla pohádky. Za začátku mě, myslím, trochu zjednodušovala.
Karel Heger ne perdra jamais un léger accent de Moravie qui rehaussait encore le charme de sa voix. Cette voix, qui marie simplicité et émotion, a le don extraordinaire de devenir familière à tous ceux qui l'écoutent. Elle fait merveille à la radio car elle a une grande force évocatrice et donne une nouvelle vie à la parole. Les enfants tchèques de ce temps-là n'oublieront jamais la voix de Karel Heger leur lisant des contes de fées. C'est un artiste qui cherche la vérité dans l'art et aussi la vérité dans la vie, ce qui n'est pas sans danger au vu des régimes totalitaires sous lesquels il lui faut vivre. Sous l'occupation allemande, il risque sa vie en aidant des personnes persécutées et pourtant, après la guerre, on le soupçonne de collaboration avec l'occupant. Sous le communisme, il se voit obligé de se taire face aux aberrations dont il est le témoin, il se le reproche amèrement et finit par se révolter. Après l'invasion des troupes soviétiques, il est écarté des studios de cinéma et de télévision. En 1977, il prend la défense d'une actrice du Théâtre National injustement congédiée et, pour la soutenir, donne lui-même sa démission. Il meurt peu de temps après, à l'âge de 68 ans. Le recueil de souvenirs et de réflexions intitulé « Le carnet d'un acteur » a vu le jour, grâce entre autres, à l'historien de la littérature et éditeur Vladimir Just. Ce dernier s'en est souvenu à l'occasion de la dernière édition de cet ouvrage.
Nous nous sommes rencontrés une fois en deuxième moitié des 60 ans, pracovně, à Sicebe Viole.
Nous nous sommes rencontrés et avons collaboré ensemble dans la seconde moitié des années 1960 dans le café poétique Viola où Karel Heger lisait le récit humoristique La petite renarde rusée de Karel Polacek. Il a présenté dans ce café trois programmes différents. L'idée d'écrire un livre lui est venue de la façon suivante. Un jour, je lui ai donné une copie des mémoires du célèbre acteur du Théâtre National, Eduard Kohout. Il m'a dit que lui-même n'avait pas l'intention d'écrire ses mémoires. Il est venu, pourtant, quelques mois après, pour me dire qu'il avait beaucoup de divers articles et m'a demandé si je voulais y jeter un coup d'œil et si on pouvait les utiliser d'une façon ou d'une autre.
Les papiers se trouvent dans deux coffrets. Vladimir Just promet à l'acteur d'examiner les articles pendant les vacances d'été. C'est donc pendant les soirées des vacances, dans les Hautes Tatras en Slovaquie, que Vladimir Just étudie ces documents et se rend compte qu'il ne serait pas du tout facile d'en faire un livre.
On mi dal takový slib, který já jsem na něm vůbec nevymáhal. On říkal, že mu na ty knížce strašně
dal. Il m'a donné une promesse que je n'exigeais pas du tout de lui. Il m'a dit tenir beaucoup à ce livre et qu'avant de le préparer à l'édition, il n'allait accepter aucun nouvel engagement à la télévision et au cinéma et qu'il travaillerait à cet ouvrage. Nous nous sommes donc mis d'accord. Moi, j'ai divisé les textes d'après mes notes en 12 chapitres, selon les thèmes, car on pouvait déceler dans ces textes plusieurs ensembles thématiques. Nous nous sommes mis d'accord pour que je choisisse les textes utilisables. Quant à lui, il a promis que dans le cas où il y aurait plusieurs articles ou interviews sur le même thème, il écrirait un nouveau texte se basant sur les articles déjà existants. Mais il n'a pas eu assez de temps pour le faire, il n'a réussi qu'à achever le premier chapitre et il est mort.
Il fallait donc faire tout ce travail à la place de l'auteur. Vladimir Just l'a achevé et le livre est sorti en 1979, 2 ans après la disparition de Karel Heger. Et en mai 2009, l'année du centenaire de la naissance de l'auteur, ce livre a été réédité pour la 3e fois déjà. En 1962, Karel Heger a parlé à la radio. C'est à cette occasion qu'il a évoqué le rapport délicat entre l'artiste et son public. En parlant du rôle de l'acteur, il fait aussi une sorte de profession de foi.
L'acteur et les spectateurs, oui, ils sont aussi liés comme l'oxygène et l'azote dans l'air. Sans l'un d'eux, il n'y aurait ni le théâtre, ni le cinéma, ni la télévision. Vous voulez que l'acteur joue bien, que son jeu vous apporte l'essence même de la vie, comme le dit Hamlet au comédien. Et l'acteur, il aime évidemment vos applaudissements et vos lettres, même si elles ne sont qu'un amas de phrases vides. Il n'aime pas ça pour assouvir son amour propre. Un menuisier, quand il achève de fabriquer une chaise, il la regarde, il souffle sur elle, il s'assoit dessus, de même qu'un mécanicien, un boulanger, un potier, un médecin. L'acteur n'a que l'écho de la salle qui lui confirme que son travail est bon. Il faut vous dire que je n'aime pas jouer là où les jeunes confondent le théâtre avec un terrain de jeu, où ils rient quand ils entendent un mot tendre ou exalté. Vous n'êtes pas content non plus quand quelqu'un se moque de votre travail. Sachez que l'acteur, aux côtés du poète, du dramaturge, de l'écrivain, cherche à enrichir votre cœur. Vous le sentirez quand vous vous rendrez compte de ce que c'est d'avoir un cœur. Chacun s'en rend compte à un autre moment de la vie.
Jednou to pocítíte hlouběji, až poznáte, že srdce máte. Každý to zjistí jindy.
Précisons encore que cette rubrique littéraire proposée par Václav Richter est une rediffusion du 27 février 2010. C'est ainsi que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague, présentées ce samedi par Anna Kubichta. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy. Thank you.
Radio